une proposition, on reconnaît peut-être une prophétie ou une parole de Dieu parce que c'est une provocation. Le psaume « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Ou chez le prophète Isaïe, chargé de dire au peuple que son temps de service est accompli, on pourrait traduire encore « Dis au cœur de Jérusalem, dis-lui que sa guerre est finie. » Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Il l'a dit avant hier, il y a plus de 1000 ans, et il le dit encore, provocation. À l'évidence, l'humanité n'a pas encore écouté ce que Dieu lui promettait. La paix de Dieu, c'est une promesse qu'il nous fait, et c'est aussi un désir, un vœu. Alors bien sûr, il y a toutes ces Miss France ou autres dont on se moque, ou bien des enfants dont on sourit lorsqu'elles ou qu'ils disent souhaiter la paix dans le monde. Tu crois au Père Noël? Elles sont un peu naïves. Et on dit naïf parce qu'on est poli, pour ne pas dire autre chose. Mais nous, nous sommes des adultes, on est lucides, on est raisonnable. On sait la paix que ça n'est pas possible. En ces temps d'Ukraine et de Gaza, on a tendance à être lucide, à être très adulte, à être très, très raisonnable. Quand on y pense, cette lucidité-là, celle de l'adulte raisonnable qui sait que la paix, ce n'est pas possible, c'est tout de même très amer, presque cynique, franchement désespérant. Et dire que les vœux et les désirs de paix sont au mieux touchants, au pire ridicules, c'est sans doute ce qu'il y a de plus triste sur la terre. Et la terre, pour citer un poète, la terre est lasse de cette tristesse. La paix, c'est à la fois une promesse et un désir, c'est une espérance, parfois difficile, et un effort, une tâche à accomplir. Souvenons-nous des béatitudes, heureux les pacifiques, heureux les faiseurs de paix. Le psaume nous a rappelé que cette paix, elle va de pair avec la justice, et qu'elle va avec la vérité et avec l'amour. Et c'est ce que crie Jean-Baptiste, la voix dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. La prédication du Baptiste, elle est efficace. On l'a entendu, c'est tout Jérusalem, c'est toute la Judée qui se confesse et se lave dans le Jourdain. Jérusalem et les fils d'Israël sont les premiers, pas parce qu'ils sont les plus grands pécheurs, mais parce qu'ils sont le peuple élu. Après eux et grâce à eux, c'est tous les fils d'Adam qui peuvent entendre, faire la vérité, préparer les chemins du prince de la paix, car il vient. Oui, il vient, celui qui est la paix. Et Jean-Baptiste nous dit qu'il a des sandales aux pieds. Lorsque le Baptiste dit qu'il est indigne, ou plutôt incapable, de défaire la courroie des sandales de celui qui vient derrière lui, c'est bien sûr parce que le Messie est plus fort que lui. Heureusement d'ailleurs. Mais dans la bouche de Jean, ce n'est pas seulement ni d'abord un aveu d'humilité. Ces sandales, celles que l'on garde ou celles que l'on enlève, elles ont une longue histoire dans la Bible, et peut-être que ça a un rapport avec la paix que l'on demande et que l'on désire. Dans le livre de l'Exode, comme dans le livre de Josué, Dieu ordonne à son prophète, Moïse, puis Josué, de retirer ses sandales. « Enlève tes sandales, car la terre où tu te trouves est sainte. Retirer ses sandales, c'est reconnaître que Dieu seul possède la terre. Et l'une des premières choses que nous avons à apprendre, c'est à nous déchausser pour dire « La terre n'est pas à moi, et celui qui y vit, je ne le domine pas. » Chercher la paix, c'est reconnaître que l'autre est une terre sacrée, que je ne peux pas le fouler du pied. Dans le Deutéronome, un peu plus loin, ou bien au livre de Ruth, la symbolique de la sandale est comparable. L'homme qui retire sa sandale, ou à qui on retire sa sandale, c'est celui qui refuse ou bien qui renonce à épouser la femme qu'il devrait normalement épouser. Quand Jean-Baptiste évoque les sandales du Messie, il dit profondément que Jésus n'a pas à les enlever quand il vient sur la terre, puisque cette terre est la sienne, puisqu'il est l'époux de son peuple. Se baisser pour lui retirer ses sandales, ce serait lui dire « Je ne veux pas de toi », que l'on a renoncé à l'alliance qu'il nous propose. Pourtant, il y en a un qui va enlever ses sandales au Messie, et c'est le Messie lui-même. Il est pieds nus à sa naissance. Il est pieds nus sans doute à son baptême. Il est pieds nus au Golgotha. Personne n'est capable de retirer ses sandales au Christ, sauf le Christ lui-même. Depuis Noël jusqu'à la croix, le Seigneur a renoncé à tout pouvoir, à toute domination. C'est ainsi qu'il propose la paix. C'est ainsi qu'il l'a fait, dans les cœurs et les communautés qui l'accueillent. C'est ainsi qu'il fait la paix chez celles et ceux qui reconnaissent que toutes les terres sont saintes, que tout homme, parce que c'est un homme, est une terre sacrée. Celles et ceux qui acceptent que Dieu ne vient pas en eux, à eux, en maître et en seigneur, mais en serviteur et en va-nu-pieds. Les hommes et les femmes de bonne volonté qui consentent à ce que le Seigneur s'agenouille pour leur enlever leurs propres sandales, pour nous laver les pieds. Celles et ceux qui vivent en paix avec les autres ou qui, au moins, le veulent et s'y emploient. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix. Depuis 1000 ans et plus, il le dit. Et il y en a qui l'ont entendu. Il y en a aujourd'hui qui l'entendent. Il y en a demain qui l'entendront encore, malgré les bombes, les chars et les fusils. Qui entendent vraiment ce que ça signifie, ce que cela exige. Shalom aleichem. Salam aleikum. Pax vobiscum, la paix soit avec vous. Depuis plus de 1000 ans, il y en a de ces naïfs, de ces va-nu-pieds. Peut-être pas les plus nombreux, peut-être pas les plus visibles, sûrement les plus précieux. Ils sont l'honneur, ils sont l'enfance de notre humanité. Qu'ils soient ou non chrétiens, ils forment ensemble le corps du Fils de Dieu qui naît sur notre terre.